bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bonjour, soyez les bienvenus dans la bande originale avec cette semaine une sélection des meilleures émissions. Si, il y en a en compagnie de la bande au grand complet. Et aujourd'hui, pour nous accompagner, Zabou Breitman qui met en scène la dame de chez Maxime de Georges Feydeau. Merci Zabou de trouver le temps de venir nous voir dans cette bande originale, même si c'est pas la première fois et j'espère pas la dernière, mais vous avez un emploi du temps extrêmement chargé, une actualité dense dans la mise en scène ou la réalisation, que ce soit avec les Hirondelles de Kaboul, formidable film que vous avez co-signé avec Eléa Gobé-Mévelec, si je prononce bien.
Oui.
Vous avez très bien prononcé.
Ne vous brûlez pas pendant que vous buvez votre thé.
J'ai bu un thé, je me suis brûlée en même temps que je pensais, vous avez bien prononcé.
Très bien. C'est dit, c'est bon, il a le théâtre encore à dire, donc j'ai le temps d'avaler ma gorgée.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Et il y a la dame de chez Maxime que nous avons eu la chance d'aller applaudir avec Leïla autre soir. Pièce de Georges Feydeau que vous mettez en scène avec Léa Drucker, Michel Esco, André Marcon, Éric Pratt, Christophe Paou et Anne Roger, entre autres, parce qu'il y a du monde, hein. Sur scène, il y a beaucoup de comédiens.
Une jolie troupe.
Au théâtre de la Porte Saint-Martin. Ouais, joli théâtre, troupe et belle folie. Belle folie, c'est dinguissime.
C'est merveilleux.
Ouais, c'est réussi.
On va continuer
d'en parler avec Zabou Breitman. Mais d'abord, allez-vous travailler vos fiches?
Vous voulez un pronostic?
J'ai fait que ça.
Moi, je veux un pronostic. Joe pronostic. Quand Zabou était enfant, son papa lui disait souvent: je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas faire les mêmes trucs que
les garçons.
Les garçons.
Ah ouais, là, t'es plus rapide que toi, là, Jérémy.
J'ai attendu poliment la fin de ta question.
J'y peux.
Moi, cette mauvaise
sous-entendue.
Petit taquet.
Bah, bravo. Sous-entendue, elle a fait du woman rupting.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bel esprit, Jérémy Crevel.
C'est vrai. Est-ce qu'il vous a poussé à tout apprendre, tout savoir, sans vous dire c'est pour les garçons ou pour les filles? Dans son éducation, dans les valeurs qu'il vous a transmises?
Est-ce qu'il m'a poussé?
Ouais.
Ouais, il m'a même un petit peu engueulé quand je lui disais: ouais, mais ça, c'est le truc d'électricité, tout ça, je sais pas trop. Tu vois, je peux pas, quoi, parce que je suis une fille.
Claude François était un homme.
Oh, non, Jérémy.
Et du coup,
il aurait pas dû. Tu vois, il aurait pas dû.
Non.
J'aurais dû attendre à la fin d'une question.
Et du coup, et voilà. Et il me disait, en fait, il n'y a pas de limite. Tout ce qui est technique, tout, tu peux, évidemment, peut-être, tu pourras pas soulever un gros piano ou je sais pas quoi, mais le reste, tout, tu peux tout faire.
Oui, la limite du muscle ou de la force, mais qui va aussi aux hommes. Hein.
Oui.
N'importe quel homme ne peut pas soulever un piano.
Ça, je confirme. Bah,
je crois qu'il n'y en a aucun qui peut soulever un piano. Tout ça,
apportez-moi un piano.
Voilà. Tout est possible. Il me disait, tout est possible.
Votre doux et tendre papa, qui est dans les Hirondelles de Kaboul, puisque c'est la voix de la sagesse qui est dans le film.
Alors, je tenais à dire quelque chose, parce qu'en fait, on dit tout le temps mon papa, mais en fait, j'avais une maman à qui on avait interdit de tout. On avait tout interdit. On lui avait dit, tu peux pas faire ça. Tu peux pas être comédienne, actrice, c'est pas possible. T'es au Québec. Elle l'a fait quand même. Mais tu ne peux pas faire ça. Ça, t'as pas le droit. T'es une fille. T'as pas le droit de dire ci. T'as pas le droit de dire ça. Et en fait, elle regardait tout ça, cette éducation.
C'est notre génération.
Mais elle était émerveillée par les possibilités que j'avais. Et elle me disait sans arrêt, t'as de la chance. Et ça m'énervait au plus haut point. Oui, mais toi, t'as de la chance. Et je me disais, mais elle m'énerve de me dire j'ai de la chance. Et je trouve aujourd'hui qu'elle n'est plus, qu'elle avait raison. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Sinon, je ne pourrais pas être libre et de me dire, bon, ça, je vais le faire. Voilà.
Est-ce que de la même manière que vous aviez proposé à votre papa de faire la voix du sage dans les Hirondelles de Kaboul, il y a un caméo quelque part de votre maman dans votre carrière déjà?
Oui, elle a joué dans Se souvenir des belles choses. Elle joue un personnage, bien sûr. Elle joue un personnage qui danse parce que ma mère adorait danser. Et elle m'a dit, d'ailleurs, elle était assez timide, c'est quelqu'un d'assez réservé. Elle m'a dit que, au fond, jouer la comédie, c'était pas. Elle aurait préféré ne pas devoir parler, mais vous savez, il y avait aussi la timidité des Québécois à l'époque, en plus qui venaient en France où il fallait pas avoir l'accent.
Sur l'accent, oui.
Et donc, elle était très mal à l'aise. Ouais, voilà. Ou alors, en tout cas, danser maintenant.
Grâce à qui Zabou a-t-elle débuté au cinéma? Personnalité connue.
Belmondo.
Non.
Comédien, réalisateur?
Poiré.
Pas réalisateur en tout cas. Je pense qu'il a déjà été un peu comédien, mais il avait surtout un autre métier.
Ah, rien à voir avec le cinéma?
Un producteur?
Non. Rien à voir avec le cinéma. Un chanteur?
Non. Enfin, si, pardon, il a chanté.
Il a chanté. Ouais, il a chanté. Mais c'était pas son métier.
Non.
Bernard Tapie.
Oui, il a chanté.
Il a chanté.
Jordi ?
Oh là là.
Non.
Là,
mais ça commence par la même lettre.
Ah,
Jean Gabin.
Non.
Non, pas dans le cinéma.
Il a chanté.
Jacques Chirac.
Non.
N'importe quel mot qui commence par J.
Ouais.
Ah oui. Jean-Pierre.
C'est un animateur télé qui a chanté.
Guy Lux.
Non.
Qui a chanté. Julien Lepers.
Non. Avec un J, animateur télé qui a chanté.
J-tron.
Jacques
c'est son
Martin.
Prénom
ça ressemble à ça. Oui, c'est un prénom.
Jacques Martin.
Non.
Chancel.
Non.
Jacques.
C'est le même prénom. Oui.
C'est Jacques.
Jacques Lucubert.
Mais Jacques qui
animateur télé.
Ben voilà.
Jacques Sardou.
Mais non, Jackie. Ah, Jackie. T'as dit Jackie sans penser à Jackie.
Attends, mais deux fois.
Ça passe, ça passe.
T'as dit Jackie sans savoir que sans penser à Jackie de Tété Où.
Jackie du Club Dorothée.
Mais oui, je pensais à Tété Où, la chanson avec Dio.
Ouais. Mais oui. Et Jackie, j'avais donc postulé pour être animatrice à Récréa 2, pour payer mes études. Parce que voilà, j'avais pas un rond. Et en vrai, je m'ennuyais quand même, vraiment. Dans les amphis, qu'est-ce que je m'ennuyais. Et puis j'avais envie de bosser. Et donc je passe une audition avec Jacqueline Joubert et j'ai cette audition et je présente des émissions. Et je rencontre Jackie et nous met en couple pour présenter. Et je l'adorais. Je l'adore. Il était formidable. Qu'est-ce qu'il était drôle. Et il me présente un de ses potes qui était Ramon Pipin de Au Bonheur des Dames ou groupe Odeur.
Oui,
le groupe Odeur. Oui. Quel beau nom de groupe quand même.
Et qui avait fait Oh les filles, Oh les filles.
Oh les filles, Oh les filles. Et il me présente à eux qui faisaient la bande originale.
Ouais.
Vous avez vu, chic, une citation, ouais. Genre en même temps. La bande originale Elle voit des nains partout. Ouais. Le film d'après la pièce de théâtre du Café de la Gare. Voilà. Et donc, j'ai rencontré ces gens-là qui m'ont dit « Ah, mais il y a une audition pour jouer Blanche-Neige. » J'ai dit « Ah, ok. » Puisque, de toute façon... À tout, je dis oui, d'accord.
Okay, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que ces rencontres, toute la vie, votre vie, comme ça, ouais. A été faite de rencontres avec de pourquoi pas, ok, j'y vais.
Ah bah oui, mais là yes, la dame woman. Chez Maxime, ça s'est fait exactement de la même
avec
manière.
Avec un pourquoi pas.
Oui, c'est Jean-Robert Charrier, le directeur du théâtre, qui m'a dit, une fois que je suis rentrée dans son bureau pour lui parler d'un autre truc, il me dit, mais pourquoi vous ne faites pas une mise en scène? Faites un truc pour ici. Ah d'accord, bah quoi, je sais pas. Il me dit, bah c'est bien Fédo. Ah ouais, c'est super Fédo. La dame de chez Maxime, d'accord. Je suis partie, c'était comme ça.
C'est comme ça, sur ce
ton-là.
Ce matin, je vous ai croisé à 10h30 dehors. J'ai dit, vous ne pouvez pas venir à la bande originale? Bon, d'accord. j'ai un creux jusqu'à
13h. Je vous jure que c'est vrai.
Zabou Breitman dit, je suis bordélique dans ma vie, mais dans le travail, je suis
très organisé.
Tyrannique.
Non.
Je suis encore plus bordélique.
Non.
Non. Je suis une sorte d'asset. Je suis une.
Autoritaire.
Je suis une psychopathe.
Alors.
Tyrannique.
Tyrannique.
Je suis un tyran.
Naguiesque.
Oui. Espèce de salaud.
Dictateur.
Non, obsessionnel.
Obsessionnel.
Ouais. Obsessionnel.
Ouais, complètement.
Mais
complètement.
Quelle est l'obsession? L'obsession, c'est la perfection.
Ouais.
Vous avez une idée précise et vous vous y tenez?
Non, c'est pas l'idée précise. Elle se fabrique quand même. Faut rester poreux aux acteurs qu'on a et aux situations qui peuvent arriver ou aux erreurs. Mais. Quand l'erreur doit être reproduite au théâtre régulièrement, il faut qu'elle soit parfaite. L'erreur doit être impeccable, comme dans Fédo. L'erreur est impeccable. Non, mais il y a un truc comme ça. On doit reproduire la vie, donc l'imperfection, donc l'erreur, à la perfection. Ce qui est très bizarre.
Est-ce qu'il y a de plus difficile?
Oh, je sais pas si... Mais en tout cas, je vois que je suis comme ça. Or, je suis tellement pas comme ça dans la vie, mais je note pas les trucs, c'est n'importe où, c'est le bordel à la maison, il y en a partout.
Mais y a pas un moment où vous vous dites, ça me gâche la vie, justement, ça me freine dans mon élan et dans mon...
Laquelle partie?
Le côté bordélique, justement.
Si, ça m'entrave, ça m'étouffe. Il y en a partout, c'est épouvantable. C'est épouvantable, je vais finir comme les vieilles avec des sacs poubelles dans tous les... Vous savez Mais si, c'est vrai, je suis un limite,
chats.
Ça. Avec un chat mort dessous.
Et dans votre travail, si vous avez quelque chose à changer,
c'est
dans
bon,
votre
pardon.
Dans votre travail, si vous avez quelque chose à changer, parce que vous êtes plutôt heureuse dans le travail,
j'adore
et puis surtout
ça.
Vu le résultat, nous de l'extérieur, on se dirait il y a rien à changer.
Non, il faut s'adapter à chaque aux acteurs. Il y a des acteurs ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Alors comme j'ai la chance de connaître par exemple Léa. Je vois très bien. Léa Drucker, pardon, oui, je vois bien que là, faut aller peut-être par là. Micha, il a pas du tout le même rythme. Anne Roger, elle a encore un autre rythme. André Marcon, je le connais pour avoir travaillé avec lui, je vois où il, à peu près où il va. Il faut faire très très attention à ça. En revanche, là, ça s'est passé tout à l'heure. Il y a un comédien qui a changé un mouvement hier parce qu'il s'est dit tiens.
Je l'ai vu.
Et je lui ai dit, tu changes pas le mouvement. On peut en parler, mais. Quand on change un mouvement, on change quelque chose dans l'espace, on change quelque chose dans l'espace aussi du spectateur.
Alors, tout à l'heure, quand on cherchait la fin de la phrase sur le fait que vous êtes bordélique dans la vie, mais dans le travail, vous étiez, et quelqu'un a dit, je crois que c'est
tyrannique.
Bah, ouais, Albert dit tyrannique, et c'est une petite réputation que vous avez quand même, vous le savez.
C'est un peu tyrannique dans le...
C'est la bonne tyrannie.
Il n'y a pas de bonne tyrannie. Mais pour arriver à ce que tout soit impeccable... en 6 semaines avec 16 personnes sur un texte pendant un spectacle de 2 heures où il y a des...
Il faut pas qu'il y ait 16 personnes qui décident, quoi, en fait. Il faut qu'il y en ait qu'une qui décide.
Oui, et puis il y a des mouvements de machinerie complètement dingues qui font là que les cintriers, on se rend pas compte, mais c'est délirant le travail qui doit être fait. C'est d'une précision aussi diabolique. Donc, alors... C'est pas le mot tyrannique est pas juste parce que quand
enfin, vous avez fait de la prison quand même.
C'est vous qui avez hoché la tête. C'est vous qu'au moment de tyrannie vous avez hoché la tête.
Je voulais dire, il y a un peu de ça. En fait, il y a de ça quand c'est pas suivi. Si c'est suivi, si tout le monde est au taquet, ça marche tout seul. Eh ben oui, ça marche pas quand le truc est pas respecté.
Et sinon, comment ça se manifeste quand tout le monde ne suit pas le mouvement?
C'est une grève.
Il faut se demander d'abord qu'est-ce que j'ai fait qui fait que ça ne marche pas.
Oui, déjà.
Donc ça, c'est la première question. Quand même, le metteur en scène, si ça marche pas, c'est quand même un peu de son fait. Donc, est-ce que la communication est bien passée? Donc souvent, c'est un problème de communication.
Comme les professeurs à la rentrée des classes doivent, dans les premières heures ou, j'allais dire première journée, premières heures, affirmer leur autorité, asseoir cette autorité, un metteur en scène qui constitue une troupe comme ça de 16 comédiens, là aussi, dans les premières heures, se joue le rapport entre eux et vous.
Ben c'est déjà dans le choix des acteurs, c'est-à-dire que vous avez un choix d'acteurs, il y a des énergies, il y a les tout jeunes qui sont dans le spectacle, je les ai auditionnés, mais vraiment beaucoup, pas un petit peu, pas genre bon ben ça va, non, c'est pas seulement ce qu'ils jouent, c'est ce qu'ils sont et c'est ce qu'ils seront, parce que
ce qu'ils peuvent apporter.
Et puis ce qu'ils seront dans 3 semaines. Parce qu'un spectacle, c'est dans 3 semaines aussi qu'il existe. C'est pas juste le jour de la première, puis c'est bon. C'est solidifier suffisamment l'édifice pour qu'il tienne le coup tout le temps.
Ça veut dire qu'à chaque représentation, vous prenez des notes, il y a un débriefing avec les comédiens, il y a des choses à régler tout le temps.
Oui, pour pas que ça...
Et à quel moment alors vous soupirez de plaisir en disant « ça y est, c'est bien ».
Mais non, mais c'est du spectacle vivant. L'art vivant, il bouge. Et donc, heureusement. Sinon, si c'était parfait, il serait mort. Donc, non, ça doit continuer. Il y aura toujours des petites choses. Et puis après, on tend vers la représentation idéale, qu'on n'atteint pas, mais dont on se dit, elle est merveilleuse. Et à la fin de la représentation idéale, vous vous dites, zut, demain, ça sera moins bien.
Pour qualifier justement la personnalité de Zabou Breitman en tant que metteur en scène, elle a déclaré, j'accepte tout. Mais pas
la critique.
Non.
L'incompétence.
Non.
Les félicitations.
Les excuses, le manque de travail.
Non.
La paresse.
Non.
La mauvaise foi.
Pardon.
La drogue.
C'est un des 7 péchés.
La mauvaise foi.
L'alcool.
On se rapproche.
Le mépris.
Non.
Le mensonge.
Ouais. Je prends le mensonge. Non, je prends le mensonge parce que c'est la tromperie, c'est qu'on me trompe.
Ah. La duperie. Ouais.
Ben voilà. Alors c'est là où je peux me mettre en colère. Si quelqu'un me dit demain il y aura ça. J'ai fait une grande confiance. Et c'est là où parfois je me mets en danger, c'est que je fais tellement confiance que je ne vais pas vérifier puisque la personne m'a dit c'est bon. Et moi, quand on me dit c'est bon, c'est bon. Mais si la personne dit oui, non, mais parce que...
Là, tu te fous de moi, quoi, c'est ça. Oui.
Non, pas la deuxième fois, mais la troisième, ouais. Ben ouais, c'est épouvantable, hein, c'est épouvantable. Là, moi, je sais qu'il y a 2-3 trucs demandés, et on dit, mais pourquoi c'est pas là? Et vous savez bien que c'est comme ça partout, même dans votre métier, c'est pareil. Et vous dites, pourquoi on le demande 10 fois? C'est incompréhensible. Et il y a des gens à qui vous le demandez une fois.
J'aime bien le regard de Leïla. C'est mon regard parce que je suis exactement mais en osmose totale avec ce que vient de dire Zabou.
C'est tourner la tête instinctivement
vers
toi.
Non, mais, bien, mais j'assume totalement.
Mais
elle a
c'est
raison.
Pas très grave.
Elle a raison.
Mais c'est juste...
Mais ça peut me rendre dingue.
Voilà, si la personne en face me dit c'est bon, je la crois. Mais si elle me redit c'est bon et qu'il n'y a rien, je commence à douter. Et là après, la personne se moque de moi et là je deviens enragée. Alors que...
Il y a une grosse différence, vous attendez la troisième fois, moi c'est la deuxième fois.
La première,
mais
ça peut
pour la troupe, en ce qui concerne la troupe, les acteurs là, il y a une énergie, et il y a une bonne volonté, et il y a surtout un talent, ils sont partants quoi, ils sont tellement merveilleux que les 16, d'avoir 16 personnes, c'est complètement dingue. Hein.
C'est rare au théâtre aujourd'hui.
16 merveilleux.
On dit pas non, c'est vrai.
Mais j'ai juste envie de tous les faire des petits bisous.
On va continuer de parler, mais justement à propos de la comédie, j'ai dit que vous réalisiez Les Hirondelles de Kaboul, que vous mettiez en scène la dame de chez Maxime. Mais pourquoi Zabou Breitman, en tant que comédienne, tourne moins?
Elle a moins le temps, elle aime
elle
pas les rôles.
Elle demande trop d'argent.
Non.
Elle ne veut plus.
Non, c'est pas ça.
Non.
Pourquoi
elle est frustrée?
Parce qu'elle a dit oui, c'est bon, et en fait, c'était pas bon.
Non.
Parce que les rôles qu'on lui propose ne lui conviennent pas.
Il y a pas c'est assez plus de... grave que ça.
Plus grave que ça, parce qu'on ne l'appelle pas.
Exactement.
Ah bon,
enfin...
Mais sérieux.
J'ose pas le dire.
Mais écoutez, on avait dit que... c'est pas grave.
Mais vous êtes
parce
sur liste
que
rouge.
Je suis quand même heureuse de faire tout ce que je fais. Non, c'est pas ça.
Vous
c'est
avez...
que c'est
non, en tout cas, on vous propose moins de rôles.
Oui, mais c'est compliqué. Je comprends très bien. C'est compliqué. Je fais tellement de trucs. Pourquoi je comprends et alors, on me perçoit moins comme actrice aussi.
Voilà,
c'est
moi qui
m'en fait.
Qui a commencé? Est-ce que vous faites moins de trucs parce qu'on vous propose moins de rôles ou parce que vous faites beaucoup de mise en scène? On dit, bon, elle va pas être libre, donc on va même pas lui demander.
C'est dans
qui de la fée de la poule?
Oui.
Ah bah oui.
Ouais, meilleure réponse possible.
C'est une des questions les plus brèves qu'ait jamais posée Nagui.
On aurait cru une sorte d'élève en difficulté en classe. Ah bah c'est trop mignon.
Nagui embrasse Zabou.
Il se lève pour l'embrasser.
Vous avez ressemblé tout d'un coup Zabou à une élève en classe en difficulté et qui fait
oui.
Oui. Même parce qu'il y avait que oui ou non. c'est ça. C'est pile ça en fait. C'est ça. C'est et il n'y a pas. Non, on ne peut pas dire, on ne me propose pas de rôle. Je ne me mets pas dans la position non plus, en tout bien tout honneur. Hein,
D'être désiré.
Non, je veux dire, c'est compliqué. Il faut qu'ils aient un imaginaire qui marche bien. Il faut. C'est pas.
Ça vous embête?
Ouais, mais en vrai, je ne peux pas être partout et tout faire. Et je trouve, en fait, j'aime tellement les acteurs aussi. Que j'aime tellement, tellement les regarder que du coup, je me mets un petit peu en arrière, quoi.
En fait, vous aimeriez bien qu'on vous propose pour répondre « J'aurais adoré, mais j'ai pas le temps ».
Voilà.
vous avez mis en scène, le système Ribadier, la comédie française. Fédo avec maintenant la dame de chez Maxime au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Votre vision de ces pièces et la folie que vous y mettez, parce que c'est quelque chose de tellement barré. Sincèrement, quand je suis arrivé devant le théâtre, je me suis dit, j'ai déjà vu la dame de chez Maxime, une fois dans ma vie, en tout cas, même si j'avais plus très bien l'histoire en tête. Je viens au théâtre avec appétit, mais je me prends une claque, parce que c'est du Fédo, mais c'est plus du Fédo, quoi. C'est du Zabou Breitman. On est dans un univers qui est peut-être d'ailleurs proche de ce que Fédo donnait dans ses didascalies, je sais pas, mais...
Mais mon père était un dingue de Fédo, et donc
j'avais sans arrêt. Vous avez grandi avec ça?
Ah bah complètement. J'avais sans Fédo, Courteline, j'avais Charles Cros. Il y avait toujours. Il est né. Je me suis aperçue là qu'il est né l'année de la mort de Fédo. Il était né en 21, mon petit papa. Et tout le temps à la maison, il y avait cette espèce d'humour là qui. Cet humour-là, il est difficile parce qu'il est à plein de degrés différents. Il a plein de niveaux de lecture quand même, hein, Fédo. Donc, le bon mot pour le bon mot. Juste pour le plaisir de faire une... Mais même à des moments compliqués. Et je me souviens d'avoir regardé mon père avec dans les yeux, non, s'il te plaît. Parce que je sentais bien que, de toute façon, il avait envie de c'était une, voilà, il y avait une perche tendue, il disait, bah oui, mais bon, alors, voilà. Et je pense que cet univers-là, il est, je le comprends, je l'aime, mais je l'aime tellement que les didascalies de Feydeau, je les aime autant que la pièce. Donc, quand on comprend que la didascalie, elle n'est pas faite forcément pour
mais
la didascalie.
Pardon, étant les indications de jeu que
voilà.
Et paraît-il, Feydeau est très précis dans ses indications.
La moitié du si vous avez le bouquin là, la pièce, la moitié, ce sont les indications de jeu.
C'est-à-dire le nombre de fois où une porte doit claquer, le nombre de fois où un mot est répété, le geste.
Ah non, mais l'endroit où l'acteur se trouve par rapport à l'autre.
Ah oui, donc c'est carrément.
Parce qu'il faisait les
physique.
Mises en scène.
Ouais, ouais.
Et parfois, ça ne sert à rien, c'est juste pour que le lecteur s'amuse en lisant un truc extrêmement drôle.
Et vous venez de prononcer un mot important, c'est comprendre tout d'un coup, parce que quand j'ai vu cette pièce, moi aussi, on connaît en effet grosso modo l'histoire, et c'est là où la notion de mise en scène prend toute son ampleur, parce que cette pièce-là...
Juste une petite parenthèse, l'histoire, c'est une espèce de hangover, enfin de...
C'est exactement ça. C'est le mec qui se réveille, il ne se souvient plus de rien. Ouais.
Voilà, ça s'appelait comment d'ailleurs en français ?
Very Bad Trip.
Very Bad Trip, merci.
En français.
Oui,
c'est vrai. Very Bad Trip.
En France,
T-R-I-P-E.
C'était hangover.
Très mauvais voyage.
Voilà.
Hangover en anglais, mais c'est...
C'est gueule de bois. Un gover. Ouais. Ça veut dire, c'est la gueule à l'inéa. Hein.
Ouais.
La gueule de
il
bois.
A la gueule là.
Il a la gueule là, ils disent dans Feydeau. Ouais. Et ça, un gover, c'est une gueule de bois.
C'est le nom du médicament aussi qui s'achète pour lutter contre la gueule de bois.
Et ben voilà.
Et elle s'y connaît.
Et oui, donc, visiblement, madame, connaît un rayon.
Commercialisé au Brésil, si ça vous intéresse.
Je voulais juste repréciser, en tout cas, le cadre dans lequel ça se passe. Un monsieur se réveille après avoir fait une fête, et dans son lit, il y a la dame de chez Maxime. Voilà. Évidemment, ensuite arrivent toutes les incompréhensions. Les quiproquos,
les tentatives désespérées pour s'en sortir et pour pas avouer finalement devant sa femme qu'il a eu une petite aventure la nuit précédente. Mais et c'est vrai que tout d'un coup, on se dit
bon, attends, laisse la poser sa question maintenant.
Oui, ce qui est vraiment important, c'est qu'on pourrait très bien lire cette pièce à la maison, en effet, avec les indications de Feydeau qui est connu pour être un petit peu contrôle fric, quoi, sur la direction qu'il veut vraiment donner au futur metteur en scène, mais vous en faites quelque chose de dingue. C'est là où on voit que vous comprenez le texte, que vous comprenez l'humour, que vous êtes vraiment au diapason avec l'auteur, parce que c'est rempli.
En modernisant aussi tout, parce que on a vu dans le jeu, par exemple, de Michel Esco, c'est peut-être votre indication. On a revu, c'est un copain qui nous a fait penser à Kramer dans la série
Seinfeld.
C'est-à-dire dans son jeu, dans sa posture, dans sa coiffure à la désirless. Il y a un côté
Cosmo Kramer.
Exactement.
Mais au-delà de ça, pour revenir au texte, on pourrait très bien lire deux répliques, et selon le metteur en scène, ça donne pas du tout le même résultat.
Ouais, parce qu'il y a des cons. Hein.
Non mais c'est important de le souligner, parce que souvent au théâtre, moi je peux avoir assisté à des pièces et avoir vu des mises en scène en me disant je sais pas où est la mise en scène, je sais pas où est la scéno, je ne sais pas. Voilà, c'est même des termes à la limite que les gens ne vont pas identifier.
Ouais.
On se dit que le metteur en scène, c'est un peu le sorte de grand gourou qui s'occupe un peu de tout le monde. Là, on accède vraiment à la notion de mise en scène avec, on sent vraiment tout le boulot, l'invention. Il y a des scènes à pleurer de rire, une scène de combat notamment.
combat de doigts.
Mais tous les enfants ont fait ça.
Mais je vous imagine en plus en train de répéter, en train de rire et en train de pousser, parce qu'en plus vous n'y allez pas au frein à main, c'est-à-dire que vous commencez pas juste en disant bon on va en faire 10 secondes, non, ça dure. Et c'est là qu'on se dit elle est complètement dingue et elle est complètement géniale.
C'est
merveilleux.
Jusqu'au casting aussi, parce que j'imagine que ce n'est pas naïf. Imaginez deux comédiens coiffés donc comme désirless en voyage, c'est-à-dire qui ont 20 cm de cheveux au-dessus de la tête.
Ça fait 50.
Et donc les
perruques de Cécile Kretzmark.
Alors voilà,
exceptionnel.
L'épouse légitime de Micha
Anne Rogers.
Voilà,
Madame Petitbon.
Qui donc, même avec 20 cm de cheveux, les cheveux 40. Arrivent à peine au menton de Michel Esco. Et cet effet-là de leur physique, de la disproportion entre la tige, la longue tige de Michel Esco et elle, c'est tellement drôle. Mais ça c'est déjà dans le casting, vous décidez d'avoir cet effet comique.
Alors, c'est plus...
Vous rendez compte après, vous jouez là-dessus
ou Non. Ouais. C'est voulu, mais c'est comme plutôt des instruments de musique. Donc je cherche pas le comique, mais je cherche la résonance musicale. Parce que c'est comme des instruments de musique. Il y a un petit violon, il y a une contrebasse, ils jouent pas à la même vitesse, ils jouent pas de la même manière. Donc c'est plus un effet humain. en fait. Mmh. C'est plus parce que elle est assez bouleversante, hein. Elle est hilarante, mais parce qu'elle croit tellement. Bah,
c'est-à-dire qu'au au début,
super mystique.
Elle est barrée, ouais.
C'est la Vierge Marie.
Mais oui, mais elle est tellement droite. Elle croit tellement. Elle est tellement maltraitée, cette pauvre petite dame. On la traite tellement mal, et ça me fait beaucoup rire parce qu'elle est toute petite. Mmh. Elle est minuscule et. Quoi de plus drôle que de faire beaucoup de mal à quelqu'un d'extrêmement vulnérable sur scène? C'est-à-dire, c'est interdit, quoi.
Exemple, on lui propose d'aller faire 5 fois le tour, place de la Concorde, de l'obélisque.
Et elle le fait.
Et que la première personne à qui elle va parler va lui révéler quelque chose d'essentiel pour sa vie. Mais ça, je suis passée devant la Concorde ce matin, ben ça m'a fait marrer. Je me suis imaginé faire le tour et voir le premier qui me parle,
surtout,
qui allait me délivrer un message.
Surtout avec le symbole de l'obélisque sur la place de la Concorde. La dame de chez Maxime, c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin, c'est, vous l'avez compris, extrêmement drôle, totalement barré, impossible à raconter, impossible à décrire, il faut le vivre, et vous allez adorer. Voici les révélations faites par François. François, maintenant, sur ça vous voyez pas.
Salut ! Salut les amis, salut Nagui, et zou bisous à vous. Attention, ce matin encore, il va y avoir de la révélation, de la dénonciation, de la circoncision, mais toujours pas d'érection. Dans une interview, à propos du système Ribadier dont on a parlé, de Fedeau, que tu avais merveilleusement mis en scène, tu avais dit, je te cite, 2 points, et j'ouvre tes guillemets. Ce que l'on croit n'est pas forcément ce que l'on voit. Ce que l'on voit n'est pas forcément ce que l'on croit. Vous avez suivi? Eh bien, comme le disait si bien Amel Bent quand elle disait « l'un, l'une », c'est ma philosophie à moi, François, parce que mon job ici consiste à démystifier les apparences, à dénoncer les mensonges. Et comme tu le sais, Zabou, je ne t'apprends rien. Mais je le rappelle à tous mes amis complètement incultes ici présents, le théâtre est un art du mensonge. Les lumières, les costumes, le maquillage, tout est factice, illusion, trompe-l'œil. Tiens, toi qui connais bien Tintin, chers à vous, tu te souviens du capitaine Haddock au Musical Palace qui prend la porte d'un décor pour celle de la buvette? Dans quel album? Les sept...
Ah non, c'est dans les 7 bouts de cristal.
Les bingo. Et surtout, au théâtre, il y a les personnages. Et toi, Leïla, qui parle couramment latin, que tu as enseigné à la campagne, tu sais que le mot personnage vient de persona, qui veut dire masque. Ça fait du bien un peu d'étymologie. Je kiffe la sémantique. Un acteur cache donc sa vraie identité derrière son personnage. Bien sûr, Zabou, tu ne joues pas. Oui, derrière son masque, persona. Tu ne joues pas dans La Dame de chez Maxime. Tu ne prêtes pas ta belle voix aux hirondelles de Kaboul. Mais ça m'empêche pas de me demander. Mais non, d'une boule à facettes en cristal. Qui se cache derrière Zabou? Mon cher Nagui, je vais m'arrêter là, car je le sens. Je le pressens, je le ressens. Toi aussi, tu es Zabou. À bientôt. Merci.
Nagui, la bande originale.
Cette mise en scène, donc signée Zabou Wetman, c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin, La Dame de chez Maxime. Est-ce qu'il y a déjà une vision d'une tournée? Est-ce que vous dites c'est pour X représentations? C'est jusqu'en décembre? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, c'est jusqu'en fin décembre. On sait qu'en janvier, on va au théâtre Montansier à Versailles. Et ensuite, oui, ils sont en train de parler
génial.
De la tournée.
Paris, Versailles, grosse tournée.
Ce qui me fait rire, c'est qu'on parle de Versailles dans la pièce et ça va être très très drôle à Versailles, évidemment.
Ça va les amigos?
Non.
Ouais. Comme vous le savez, lundi c'était la journée mondiale du guacamole. Donc je vais vous parler d'Anna Arendt, qui n'aimait pas spécialement les avocats ni les transitions d'ailleurs. Non. En revanche, elle a quand même dit 2-3 trucs dans sa vie, notamment que chaque génération d'enfants est une civilisation barbare que les adultes doivent civiliser. Ce qui est quand même très juste, quand ça naît un bébé, ça connaît encore rien de la culture humaine. Il n'y a jamais un bébé qui sort du ventre de sa mère et qui crie « La TVA à 21%, c'est un très mauvais signal !» Et je parle même pas de la Coupe du Monde au Qatar, maintenant mon lait. Il faut tout leur apprendre. Et ils sont très malléables sur le plan cérébral. Avant 3 ans, un bébé, ça peut former 1000 nouvelles connexions neuronales par seconde. C'est beaucoup. À titre d'exemple, moi je suis à 4 par semaine, dont 2 pour écrire cette chronique. C'est quand même une de plus que Tom Villam. Enfin, je pensais à ça hier matin, j'étais au cabinet, tu vois, je me disais « Mexicain, on m'y reprendra plus !» Et là. J'écoute France Inter. Oula. Et sur qui je tombe dans la matinale? Boris Cyrulnik, le neuropsychiatre.
Oui.
Et voilà. Et je me dis, Boris Cyrulnik, il est quand même extraordinaire. Il dit que de la merde. Vraiment.
Ça va pas.
Là, sur ce point-là, non, vraiment. Je suis assez d'accord avec vous, Nagui. Je peux pas le saquer, Cyrulnik. Vraiment, sur ce point-là, je suis d'accord. Dans votre bureau, vous me disiez, c'est une imposture et tout.
Mais
plus jamais
dingue.
Il met un pied dans mon émission. Moi, sur les enfants, j'ai qu'un maître. C'est Jackie du Club Dorothée et tout. Mais ça, c'est vrai. Et c'est vrai que Cyrulnik, il disait hier, avec son groupe d'experts sur les 1000 premiers jours de l'enfance, il veut proposer au gouvernement d'augmenter la durée du congé parental. Ouais. Je me dis, mais quand est-ce qu'on va arrêter de déresponsabiliser les bébés, quoi? Si à 11 mois, t'es pas capable de gérer un minimum ta life, ça c'est la culture de la cistana, ça c'est 60 ans socialiste. Il a fait beaucoup de mal, Pierre Bergoglio, je te le dis. La prochaine fois que tu l'interviews, Leïla, tu peux lui dire de ma part. Oui. Mais sérieux, j'entendais ça, je me disais, Ernesto, fils d'une bouée de sauvetage, eh bien, interviens avec le standard de France Inter. T'as la pratique en plus avec les enfants, c'est vrai, j'ai pas eu d'enfants, mais c'est vrai que j'ai été beau-père une quarantaine de fois, comme Anthony Delon. Et j'ai un peu l'impression qu'on est dans une surprotection du bébé. Il y a un outil qui est formidable pour développer ses capacités cognitives et assurer son épanouissement. La télévision. Mais oui, avant de partir au boulot, tu mets ton bébé devant télé matin. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour appréhender le monde. Des informations, une météo, il y a tout vraiment. S'il est un minimum discipliné, le soir quand tu rentres, il est toujours assis sur le canapé. Là, tu lui prépares ses rognons et hop, tu le mets au lit. C'est pas si compliqué d'éduquer un enfant, c'est vrai. Il a parfaitement raison, Boris Cyrulnik, de dire qu'il faut parler le plus possible au bébé pour le stimuler sur le plan neurologique. Je dis juste, qu'est-ce que ça change que ce soit toi qui lui parle ou Laurent Bignolas? C'est un détail, ça change rien, franchement. En plus, il faut arrêter avec le culte des bébés. Franchement, les bébés, c'est les pires des rats. 9 fois sur 10, tu vas au resto avec un bébé, jamais ça sort son portefeuille. L'addition arrive, il fait semblant qu'il a un appel. Et toi, t'es là, tu me la fais pas, Luc. Je te connais, ton téléphone, il est factice. Oui, Luc, c'est le prénom du bébé. Et après, c'est vrai que si on sécurise leur environnement pendant les 1000 premiers jours de leur vie, ils ont toutes les chances de mieux s'en sortir psychologiquement. C'est vrai, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de grandir dans un environnement sécurisant pour réussir sa vie? Regardez Daniel. Il a commencé à parler à l'âge de 16 ans. Regardez la niaque qu'il a aujourd'hui. Cette envie de s'exprimer tout le temps. À bon escient, ça n'a aucune importance. Moi, c'est pareil, ma mère était alcoolique. À 6 ans, je cuisinais ma panade tout seul. Je mettais du curcuma pour donner du goût. Vraiment, tu sais quoi, à 1 an et demi, je vivais en coloc. Moi, ça m'a rendu du brouillard, quoi. Vraiment. Donc, c'est vrai que c'est louable de la part du gouvernement de vouloir protéger la petite enfance, de gommer les inégalités de destin et de mieux préparer les parents face à l'arrivée d'un nourrisson. Mais franchement, le groupe d'espère, moi, je l'aurais quand même mis avec Jackie. Allez, bonne émission, les amis.
Merci. Yes.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Vous êtes bien dans la bande originale et vous serez encore mieux après Abel Chéré qui nous chante L'amour saignant.
Jute la pulpe rosée de nos lèvres arrosées au jardin de nos baisers. Dans ce fruit innocent brille tes dents comme un gourou qui harangue les âmes perdues malangues. S'attendrit en chair de mangue. Passe la herse de craie de ton palais. Alors se ferme d'un coup sur l'organe de mon goût, comme la mâchoire d'un loup dans la peau d'un agneau, ton massicot. Adieu amour mielleux, je mécanine, c'est un fleuve hémoglobine qui coule entre nos babines. On savoure ce breuvage anthropophage et de ce cocktail féreux déguerpit l'amour peureux, laissant s'étouffer le feu que l'on attise en vain jusqu'au matin. Adieu amour mielleux, emporte l'amour morné. Nous nous regardons gênés et s'échappe le deuil en un clin d'œil. Seigneur, c'est mieux.
Isabelle Chéret avec l'amour saignant dans la bande originale de Zabou Breitman, qui est avec nous jusqu'à 12h30 pour parler de La Dame de chez Maxime.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Zabou, vous êtes, j'imagine, éco-friendly, mais est-ce que vous êtes militante? Est-ce que vous...
mes parents, dans les années 70, gueulaient déjà contre beaucoup, beaucoup de choses, et notamment contre tout ce qui attaquait la planète. Donc on le savait déjà. On aurait pu déjà commencer à faire des trucs. Et ils étaient très, très... ils étaient à donf. Hein. Et moi, je trouvais ça nul. Ils étaient, bah non, voilà, t'as vu ça, et ça, c'est pas possible. Ah non, ils étaient très attentifs.
Je sais pas si vous avez connu un monsieur qui s'appelait René Dumont, qui était
candidat aux élections
et qui faisait sa tournée pour la présidence à la République à vélo, en dénonçant donc ce qui se passait, la surconsommation et la pollution. Et quand on réécoute pour les élections de 74,
il était visionnaire, tout son programme
tout,
aujourd'hui.
Ouais. Et ça m'a fait flipper, tout sur les bateaux.
Tout ce qu'il avait dit,
je l'ai vu, là, les pubs.
S'avère.
Mais il se faisait insulter, moquer par des gens très connus encore aujourd'hui.
Non, mais là, ça va aussi encore plus loin.
C'est Galilée, c'est
du tourisme, c'est le dark tourisme. Ouais, quoi. Ouais. Comme il y a des gens qui vont à Tchernobyl, là, on va au Groenland pour observer la chute collective. Alors, en fait.
Et ils veulent voir des ours polaires. C'est dans leur.
Il faut juste dire une chose, parce que j'entends de loin tous les haters qui nous écoutent en disant écoute, c'est bobo à la radio qui disent il faut faire quelque chose pour la planète. En tout cas, on ne donne pas spécialement de conseils à qui que ce soit, mais si chacun fait à son niveau quelque chose, juste un peu, oui, exactement, colibri, la petite goutte sur l'incendie, au moins on fait notre part. Après, personne ne sera totalement parfait, évidemment, on aura toujours un défaut. Déjà, nous, là, on est dans l'électricité, on consomme l'électricité.
C'est des LED.
Pour faire de la radio. Mais,
on n'a plus de bouteilles en plastique.
Non, on essaie d'avoir des gourdes, je parle pour boire.
Je me sentais pas visée.
Pas du tout, mais tu m'as montré la tienne.
Non, puis là, il y a beaucoup de messages politiques sur l'urgence climatique, mais ça fait depuis les années justement 70 qu'ils disent qu'il y a urgence climatique.
Et non, mais là, c'est bien. Bon. Parlons de la musique de Zabou Breitman, la musique de, pardon.
Je ne fais pas de musique.
La bande, vous en avez
pas encore.
Ça, c'est la BO entre guillemets de la pièce. Ça, c'est dans le.
Ah non. Alors, ça, c'était Ribadi. Oui.
Ah
ça,
oui.
C'est
pardon.
Ça, c'est presque la même.
Je pardon, mais ok.
Non, pas pardon. Non. C'est ça, c'est Shostakovich, c'est super. Elle a été réadaptée par Reinhard Wagner, qui a composé d'ailleurs le je vais faire un opéra avec lui, un conte musical sur poil de carotte. Il a fait une musique absolument magnifique, j'adore ce type, et il joue la duchesse. C'est lui qui joue la duchesse au piano, c'est lui la duchesse.
Ah,
ouais, c'est lui la duchesse. Ouais, ouais. Comme la môme l'appelle Dussèche.
Dussèche.
Et alors, expliquer que dans la pièce, il y a beaucoup d'hommes qui jouent des rôles de femmes.
C'est génial, tellement drôle.
Tellement drôle.
De toutes les femmes à moustache.
Ça, c'est vous qui l'avez décidé.
Bah oui, oh.
Bah non, parce que c'est un.
Mais oui, mais parce que c'est comme des enfants qui auraient pris des costumes dans une malle, puis qui vite se seraient habillés. Et tout va bien, voilà.
Ah, c'est très drôle. 1980, qu'écoutez Zabou Breitman comme musique.
J'étais ska, moi. J'étais à fond.
One step beyond. Vous avez beaucoup dansé là-dessus?
Elle danse encore. J'étais beaucoup en Angleterre. Oui, je danse encore là-dessus. J'étais beaucoup en Angleterre et je les adorais. J'adorais Madness, hein, j'adore l'Angleterre.
Specials.
Et j'adore le ska, j'adorais ça. J'ai trouvé ça vraiment formidable.
Dans les années 80, donc l'image, c'est l'Angleterre pour Zabou.
Et c'est Récré à deux aussi, qu'on a évoqué tout à l'heure avec Jackie. Et quand vous parliez à l'instant de la mise en scène avec des acteurs qui sont allés dans une malle chercher des vêtements et qui se sont déguisés, c'était un peu l'esprit aussi Récré à deux avec toute la troupe où on amenait chacun ses accessoires, c'est ça, on écrivait.
Ah bah c'était incroyable pour commencer à écrire. Moi je me suis mise à écrire des sketchs, et là j'avais rencontré Ariane Carletti qui nous a quitté. Ça m'a fait vraiment ça m'a bouleversée. C'était une fille vraiment géniale. C'était une vraie comédienne en plus, elle. Moi j'étais moins comédienne qu'elle, et il y avait quand même une bande de gens qui venaient d'univers très très différents et avec qui on s'entendait extrêmement bien. C'était très très joyeux, ça a été super, et on écrivait, on était très libre, on
pouvait. C'était une bonne école.
Super école, bien sûr, formidable. Ouais, moi j'ai adoré.
1998, vous écoutiez.
S'il suffisait S'il suffisait d'aimer.
Ah, Lara Fabian.
Non.
Rien qu'en aimant donner.
Vous entendez cette musique? Vous avez quelles images?
Alors, j'ai quelles images? J'ai ma fille qui fait un playback complet.
Sur cette chanson?
Sur cette chanson, elle a 9 ans. Et je sais que Géraldine Nakache et Leïla Bekti ont fait un gros truc là-dessus. Moi, je les adore. Je les trouve merveilleuses, ces filles. Et je trouve ça génial qu'elles aient fait un...
Le film s'appelle J'irai où tu iras.
J'irai où tu iras, ouais, elles ont fait.
Je l'ai pas vu,
mais j'ai vu la bande-annonce et je les aime tellement. Et je me suis dit, ah, il faut, allez, on va leur faire un truc. Et puis Céline Dion, je l'adore. Elle est québécoise. Et ça, son parcours est complètement fou.
Donc ça vous renvoie quoi? L'image de maman aussi, c'est...
Maman s'appelait Céline. Elle, famille de 14 enfants. Et puis, là, ce que j'ai aimé dans cette chanson particulièrement...
Signe Goldman,
c'est qu'elle ne fait pas de la voix. Ouais. On sent tout ce qu'elle peut chanter et elle ne le fait pas. C'est la classe.
C'est pas la démonstration.
Jean-Jacques Goldman a dit il fallait que j'apprenne à Céline Dion à déchanter.
Absolument.
Pas partir dans la prouesse et dans le...
Mais vous vous rendez compte, vraiment, moi j'ai les poils. Hein. Ouais. Et Dieu sait si j'en ai. Allez.
Est-ce qu'on peut en parler?
Écoutez, je le dis, écoutez, ça suffit maintenant.
On en parle maintenant ou pas des... 98, Zabou, vous reprenez votre nom, parce que jusqu'alors, vous vous y appelez simplement Zabou. Donc là, c'est Zabou Breitman.
Oui.
C'est à l'occasion d'une pièce de théâtre, La jeune fille et la mort d'Ariel Dorfman. Il y a une histoire très très jolie autour de cet événement, parce que votre propre père n'avait pas utilisé Breitman tout au long de sa carrière. Il avait gardé le nom de votre mère, Déré.
De sa mère. Jean-Claude Déré, ça se faisait beaucoup à l'époque. Ouais. Ça se faisait beaucoup quand on avait un nom à consonance juive. Donc il s'était dit, bon, allez. Et Jean-Claude Déré, même avant-guerre, évidemment. Ça n'a pas démarré en 1939, hein, les histoires. Ça démarrait bien avant. Donc il avait pris Jean-Claude Derain en se disant, c'est plus cool. Donc quand il jouait à la Rose Rouge ou à l'Alhambra, voilà, il avait pris ça quand il jouait avec toute la bande, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, voilà. Et il est parti au Québec avec ce nom-là. Et en fait, il n'avait plus son nom. Et il était très heureux et à la fin, et tout à la fin, il mettait Jean-Claude Derain-Breitman.
Oui.
Il était... extrêmement heureux que je l'ai repris. Et Ariel Dorfman vient du même patelin que mon arrière-grand-père, Grégor Breitman, de Kishinev. Il vient de Kishinev, en Moldavie. Donc c'est amusant, tout ça.
Qu'est-ce qui vous a décidé à reprendre votre nom en 98?
En 98, j'ai repris mon nom...
La Coupe du Monde.
Parce que la Coupe du Monde, déjà. Déjà, ça m'a fait un truc. J'ai toujours... d'abord, il me manquait parce qu'il n'y avait que Zabou. Ouais. Et c'était un nom... C'était...
C'est bizarre de garder juste un prénom, hein.
Je t'emmerde.
Mais c'est pas vraiment ça. C'est que dix ans plus tôt, quelqu'un m'avait dit, ouais, toute façon, vous êtes intéressé par l'argent, ça m'étonne pas. C'est quoi de votre vrai nom déjà?
Oh.
Et là,
c'est un monsieur très connu.
Oui,
grand patron de radio.
Qui vous a dit
ça? Était Jean-Marie Cavada. Et donc, je m'étais dit, mais merde.
Cavadaps?
Jean-Marie Cavadams. Et là, j'avais dit, c'est pas bien de me dire ça. Et j'avais dit, quoi, comment? Il m'a dit, ouais, je me comprends très bien. Alors, mais j'ai dit ça comme ça.
Mais c'est dingue.
Et, moi, ça, c'était mon grand-père, ça, c'était pas possible. Et ça m'est resté dans la tête.
Bah, un peu, oui.
Et dans le cœur.
Et dans la gorge.
Ouais. Et ouais, très longtemps. Et j'ai mis beaucoup de temps à le reprendre, et tout le monde me disait, mais reprends ton nom. Et je me disais, mais il faut que je le reprenne, ce nom. Et c'est Daniel Benoît. À l'occasion, il m'a dit, je serais tellement fier que tu reprennes ton nom. Parce que quelqu'un m'avait dit, bah oui, mais les gens, ils vont plus savoir que c'est toi. Bon. J'ai dit, ils vont bien voir que c'est moi qui joue.
Et puis quoi encore?
Non, et puis Zabou, ça
j'adorerais Zabou.
Il faut bien s'en douter que c'est la même personne.
Oui, c'est pas complètement con.
Ouais. C'est pas Zabou, la fille, tous les poils sur scène.
Elle ressemble à Zabou, la fille qui s'appelle Zabou Breitman. Ça aurait été bizarre. Et donc, voilà l'histoire.
En 2015, vous écoutiez... Ouais, mais qui sait aussi mettre le frein à main et des choses.
Voilà.
Elle sait tout faire.
Oh là là là. C'est des voix exceptionnelles quand même. Exceptionnelles.
Alors on pouvait passer Adèle, mais également L'enlèvement au sérail. Que vous avez mise en scène à l'Opéra Garnier. Alors déjà, l'adresse doit faire quelque chose aussi, parce que l'Opéra Garnier,
ouais,
c'est quand
ça
même...
fait comme ce que vous dites. Hein.
C'est ça.
Tous les jours, j'allais, oh, je vais au bureau, je regardais le truc énorme. Je me disais, je vais au bureau. Non, en fait, on a répété d'abord à Bastille, mais quand on a fini par répéter à Garnier, c'était du délire. J'allais sur la, je me disais, mais profite, 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 regarde, profite d'être dans la salle vide. Non, mais c'est un truc de dingue.
Est-ce que ça vous mettait une espèce de poids supplémentaire sur les épaules d'être dans ce lieu mythique?
Ouais, mais en fait, je considère pas les trucs comme un poids, c'est plutôt un élan ou un bonheur ou un élan, une chouette quoi, c'est comme un énorme cadeau.
Clairement.
Et puis ça sous-tend aussi une forme de compréhension, parce qu'on a parlé de ça tout à l'heure avec Fédo. Là, vous savez lire la musique.
Ouais.
Vous n'êtes pas néophyte en la matière, donc ça c'est quand même une aide non négligeable quand on s'attaque à la mise en scène d'un opéra quand même un peu.
Ben je sais pas, je suis pas, c'est pas obligé je pense. Il y a vraiment des gens qui.
Mais est-ce que c'est une aide supplémentaire par rapport à ceux qui maîtrisent pas la musique?
Je sais pas, je m'en rends pas compte. Ouais. Il faut, je pense qu'il faut connaître bien ce que faisait Mozart. Mozart, quand même, c'est très populaire. On sait qu'il y a la coda sans arrêt, ça répète et répète et répète, parce que les mecs, ils se barraient, ils allaient bouffer à l'extérieur, ils revenaient, donc ils avaient plus suivi bien l'histoire. Donc on leur raconte.
Ouais, principe d'un refrain aussi.
Oui, 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 ça sent. Puis de toute façon, ils étaient en famille, mais ça becquetait à l'extérieur, hein. Ils revenaient, ça discutaillait, ça rigolait. Non, c'était pas du tout aussi sage qu'aujourd'hui. Et aussi, Mozart était facétieux, donc il déconnait sans arrêt. On a des écrits dans lesquels il raconte que Mozart tout à coup regardait le ténor, il se croisait les bras, il le regardait, il jouait pas. Ou alors il jouait un autre air. C'est-à-dire que quand même il était dingue, il était fou. Donc on a joué, moi j'ai joué avec ça et Philippe Jourdan était un chef extrêmement, extrêmement chouette, quoi.
Violaine Hérault nous a rejoint. Bonjour Violaine.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de Georges Feydeau. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 3. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur Feydeau, dont un appelé La Machine, Feydeau, La Machine à Vertige, aux éditions Garnier. Nous parlons donc de cette dame chez Maxime. Comment d'abord définir la patte, le style, l'humour Feydeau? Est-ce qu'il y a une manière de le définir?
C'est difficile de le définir rapidement, puisque Zabou Breitman, vous l'avez très bien dit, à différents niveaux. Mais d'abord, je pense qu'il y a quelque chose d'immédiat. Il y a quelque chose de très enfantin. Moi, quand j'étais enfant, j'ai découvert Feydeau par des vieilles versions de la Comédie française. Je comprenais pas tout, parce que, évidemment, tout ce qui était de l'ordre, de l'humour grivois, etc., moi, ça me passait un peu au-dessus à ce moment-là, mais je me bidonnais déjà. Et je pense que ça, c'est vraiment la première chose pardon, je m'en étouffe, à percevoir. Mais par contre, c'est vrai que dès qu'on creuse un petit peu, on voit qu'en fait c'est extrêmement profond et qu'on creuse petit à petit, qu'on est au bord du gouffre en fait chez Feydeau.
C'est un humour de situation, c'est un humour de jeu de mots. Est-ce qu'il y a des contrepétries qui se glissent dans ces textes? Quels sont les arcs dont il se sert?
Alors la situation, vous avez tout à fait raison. Et pour prendre l'exemple de la dame de chez Maxime, c'est une situation, un bon bourgeois médecin qui découvre d'un coup dans son lit un matin de gueule de bois qu'il y a une danseuse du Moulin Rouge.
Voilà. Sans savoir ce qui s'est passé
Et donc cette femme passe pour sa femme légitime, il faut qu'il se débrouille avec ça, donc c'est évidemment la situation.
C'est pas mon père.
Et allez donc, c'est pas mon père.
Et allez donc.
Alors là du coup, et allez donc, c'est pas mon père, c'est une formule que tout le monde connaît, mais il n'y a pas de bon mot véritablement chez Feydeau. Le mot, il vient de la situation. Par exemple, quand dans Un fil à la patte, vous avez un personnage qui sent mauvais et qui dit bah, « je m'en suis sorti », il voulait dire « comme j'ai pu », il dit « comme je pue bah », là évidemment, tout le monde rit, mais c'est pas un mot que vous allez sortir en disant bah, « Feydeau a dit un jour, ça marche pas
ouais, ».
C'est pas Sacha Guitry. Sacha Guitry qui aime bien donner des grandes vérités sur la vie, sur le mariage.
Il n'y a pas de pensée ou des sentences comme ça qui peuvent être sorties de la pièce.
Il y en a quelques-unes, mais c'est vraiment rare, il faut les chercher.
Est-ce qu'on peut définir son humour sur l'époque où il a écrit, ou est-ce que son regard sur les femmes, sur le couple, sur la société, les bourgeois?
Alors oui, évidemment, c'est un homme de son temps, c'est la belle époque, donc on est vraiment à la charnière entre le 19e et le 20e. Et tout à l'heure, ça m'a fait plaisir de vous parler de Charles Cros, parce qu'on est vraiment aussi dans cet univers zutiste, hydropathe, absurde. Et évidemment, on sent qu'il est très perméable à tout ça. Ouais.
On dit que Charles Cros a inventé le gramophone, et Feydeau, il a été très moderne. C'est le premier à avoir utilisé justement le gramophone, le téléphone sur scène. Il était très à l'affût des inventions, il les plaçait dans ses pièces.
Il adorait la technologie, puis surtout la technologie qui rate. Forcément, le phonographe enregistreur, il est là pour enregistrer quelque chose qu'il aurait jamais dû capter. Et donc, il s'amuse beaucoup avec le progrès. C'est du progrès, mais ça déraille.
Est-ce que les pièces ont eu du succès de son vivant ?
Absolument. C'était vraiment quelqu'un très connu. Il a été le prince du rire, hein, c'est ainsi qu'on l'appelait. Et très vite, dès sa première pièce.
Je me disais.
ça fait plaisir de savoir qu'il a été reconnu, quoi, tout de suite, quand même.
Oui, il a été reconnu, mais en même temps, c'était quand même pas, il n'était pas reconnu comme un homme de lettres. Ouais. Il était reconnu comme un amuseur, un vaudevilliste, et il en a souffert, parce que on imaginait qu'en fait, c'était facile d'écrire des petites pièces comme ça pour le divertissement, pour faire rire. Et d'ailleurs, il était connu à l'égal d'autres dramaturges qu'on a perdu de vue aujourd'hui, totalement.
Mais vous savez, il y a Léa Drucker qui avait cherché dans la Pléiade et il n'existe pas dans la Pléiade. Elle a dit, mais c'est épouvantable.
Elle était choquée.
Ouais, bien sûr.
Il était acteur, en fait. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas de rôle qu'on lui proposait qu'il s'est mis à écrire? Était-il un bon acteur?
Non, alors il a commencé à jouer ses propres pièces, en fait, qui étaient des petites scénettes, dans des cercles de jeunes artistes, donc il s'amusait beaucoup. Et il était très fort pour les imitations. Vraiment un bon imitateur. Mais, alors, apparemment, on lui aurait proposé un rôle, et puis il ne s'est pas rendu au rendez-vous, comme il était en retard. Et donc, il a dit, ça a décidé de ma carrière d'écrivain, parce qu'il était assez paresseux. Mais, en réalité... Je pense que ça, c'est quand même de la légende personnelle, parce que il y a des tas de brouillons dès qu'il est très jeune, dès l'âge de 12 ans, il noircit entièrement ce qu'il appelle des cahiers de drame. Donc c'est assez touchant, mais de voir que très jeune, il avait une vocation d'auteur, c'est très clair.
Il a dit, on lui prête en tout cas cette phrase, vrai ou faux, vous allez nous le dire, la vie est courte, mais on s'ennuie tout de même. Pas très gay comme phrase.
Honnêtement, je sais pas s'il a dit ça, ou si c'est quelqu'un d'autre, ou si c'est pas une phrase un peu qu'on se passe comme
on
ça.
Lui prête.
Mais il était pas très, il était un peu noir. Tout à l'heure, vous l'avez parlé du gouffre. Il a fini sa vie dans des circonstances un peu terribles.
Triste. Il a eu la syphilis et donc il est mort dans un état de démence à la toute fin, donc au sanatorium de Rueil-Malmaison dont on parlait. Donc en effet, il y a eu c'était assez terrible pour quelqu'un qui s'était aussi passionné pour la médecine, qui en parle beaucoup dans ses pièces, et puis pour la folie dont vous parliez tout à l'heure, c'est très net. Et il en a été ensuite la victime. Et c'était un grand mélancolique, un mélancolique, un taiseux, c'est-à-dire qui était très spirituel en privé, mais dès qu'ils étaient plus de 3-4, il ne disait plus grand-chose.
Syphilis, ça veut dire qu'il avait une vie mouvementée, débridée ?
Apparemment.
Il peut suffire d'une fois.
Ouais, tu peux avoir un coup de malchance.
Apparemment, mais c'est vrai qu'apparemment,
tout tourner autour des affaires de tromperie, de coucherie et autres.
Oui, mais ça veut rien dire. C'est peut-être aussi de l'analyse de regard. Non
bien sûr.
Et ses copains, où ils voyaient des. Il paraît que c'est une histoire plus ou moins vraie, non, la dame ? Enfin, qu'il y avait un copain à lui, à qui c'est arrivé, je sais pas quoi.
Oui, c'est plus ou moins vrai, oui. Pardon.
Non, mais c'était c'est un homme qui déjà l'adultère, ça voulait quand même dire des choses aussi dans son histoire personnelle, puisque il y a toujours eu des rumeurs sur sa paternité, hein, comme quoi il ne serait pas le fils de Ernest Feydeau, mais le fils peut-être de Napoléon III, peut-être du duc de Morny.
Oui,
donc c'est quelque chose avec lequel il a vécu et qui est ressorti jusque dans ses dernières années où il se faisait pousser la barbiche pour vérifier s'il ne ressemblait pas à Napoléon III. Voilà. Mais c'était aussi un thème de l'époque. C'est un homme qui avait beaucoup de succès visiblement parce qu'il était très beau, très séduisant, etc. Voilà.
Dans le Larousse, à l'article moustache,
ah oui.
C'est Feydeau qui a été dessiné avec une splendide moustache.
On parlait beaucoup de sa belle moustache.
D'accord. Il a fini seul, quasiment fou, c'est la syphilis, comme vous disiez, qui l'a rongé de l'intérieur, c'est ça ?
Oui, il a fini interné, hein, donc seul, pas vraiment, parce qu'il avait 4 enfants qui se sont bien occupés de lui, qu'il avait des amis. Et Sacha Guitry raconte qu'il allait le voir au sanatorium et qu'il était navré, qu'il avait le cœur brisé de le voir dans cet état.
Quelles seraient pour vous les 3 pièces incontournables à voir pour apprécier Feydeau et son humour ?
La Dame de chez Maxime, c'est vraiment pour moi une de ses meilleures pièces, une des plus brillantes.
C'est le plus gros succès qu'il ait eu.
Oui, c'est le plus gros succès. La Dame est partie en Amérique, etc. Grosse tournée de son vivant. Je citerai La Puce à l'oreille parce qu'en plus on va la voir bientôt à la Comédie Française, qui est une pièce à sosie, qui joue sur des doubles, et vous avez un personnage qui ne parle qu'avec les sons voyelles. Donc ça vaut le coup d'être rien que pour ça.
Et on c'est peut formidable. Imaginer que vu la troupe de la Comédie Française, ça va être formidable.
Je pense. Et je dirais On purge bébé, qui est un grand classique. Commande un sujet totalement scatologique, parce qu'on parle beaucoup de constipation, eh bien, on va faire une merveille de pièce.
Avec un pot de chambre.
Pas le fil à la patte.
Mais vous me dites trois, Nagui.
Bah oui.
Je
m'attendais à ce que le fil à la patte soit dedans.
Oui, bien sûr, un fil à la patte pour ses courses poursuites.
Et Léonie est en avance.
Te promène donc pas toute nue.
Et vous voyez, c'est pas moi qui dis.
Merci, Violaine Hérault. Je rappelle, Feydeau, la machine à vertige aux éditions Garnier, maître de conférence à l'Université de Paris 3. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Il y a un problème, c'est celui de la farine de sarrasin.
Oui, Intermarché, les mousquetaires, ont rappelé des lots de farine bio car ils contiennent des extraits de plantes hallucinogènes. Résultat, depuis trois jours dans les crèmes. C'est l'orgie, les gens font l'amour comme dans le dernier tango à Paris, mais avec du pain paysan breton. Demi-sel, bien sûr.
Moi, je voulais faire des crêpes, ça tombe bien.
Pas d'épices,
après les infos de midi. Merci de nous rejoindre dans cette bande originale. Elle est repartie avec toute l'équipe et notre invité du jour, Zabou Breitman, pour sa mise en scène audacieuse et loufoque de La Dame de chez Maxime. Avec cette mise en scène réussie, mise en scène dingue, folle, drôle, intelligente, qui se passe au théâtre de la Porte Saint-Martin, La Dame de chez Maxime. Il y a aussi ces Hirondelles de Kaboul, ce film que vous avez réalisé avec Eléa Gobé-Mévlec. Il y a Simon Abkarian, Zita Enro, Swan Arlo, Yam Abbas, Pascal Elbé, Michel Jonas, votre papa, dans ce film qui est un dessin animé. Ouais, on pourrait dire un dessin animé, un film d'animation, mais vous nous aviez déjà expliqué à l'époque votre manière de travailler. On le comprend mieux en plus quand on le voit, ce film. Les acteurs ont réellement joué comme s'ils étaient au théâtre,
ouais.
Ce qui a été ensuite dessiné.
Oui, ils étaient au théâtre ou au cinéma. C'est-à-dire qu'ils ont pu... D'abord, ils avaient leur texte. Ils savaient leur texte. Donc, ils ont interprété leur texte. Ils ont pu se parler l'un sur l'autre.
Il fallait le vivre, quoi.
Ouais, voilà, ils l'ont vécu et c'était animé. Et même, ils avaient les vêtements. Donc, ils avaient aussi des possibilités d'impro. Et je leur avais proposé d'éventuellement avoir des petites hésitations, de tout sauter, de se racler la gorge, parce que c'était ça qu'il fallait animer. C'est encore une fois animer l'imperfection, c'est-à-dire reproduire l'imperfection.
Alors il faut expliquer aux auditeurs que généralement c'est l'inverse. Le dessin est fait, et puis ensuite on projette ça sur un grand écran, les comédiens viennent avec un casque ou pas, et posent leur voix sur les dessins. C'est normalement l'inverse, en fait.
Alors c'est normalement l'inverse. Souvent, après, il y a des gens peut-être qui procèdent de la même manière, mais pas avec cette direction d'acteur-là. Pour moi, c'était pareil que la direction d'acteur d'un film.
Ça, c'est le travail. Et puis après, il y a l'histoire. Il y a
le roman de Yasmina Kadra, qui est
un best-seller.
Qui est un best-seller et qui est un roman qui est assez...
qui laisse pas indifférent.
Ah bah non. Avec une scène comme ça... on va dire, qui démarre toute cette histoire. C'est ce jeune homme, Mohsen, qui est joué par... qui est joué par Swan Arlo, et qui va au milieu d'une scène de lapidation, sans raison, sans réfléchir, va prendre aussi, il va hurler avec les loups, quoi, et prendre ce caillou et le jeter, quoi. Et il se demande pourquoi il a fait ça et comment c'est possible qu'il ait pu faire une chose pareille. Et ça, c'est...
Et Zita Enro, qui est celle qu'il aime, il lui avoue l'avoir fait, et
c'est pas possible, c'est une jeune femme. Ouais. Oui, bon, alors j'ai un petit peu triché avec le métier de Zunaira, qu'interprète Zita. J'en ai fait une dessinatrice. En fait, elle dessine, parce que j'aimais bien l'idée que le dessin puisse se dessiner lui-même. Voilà. Et donc, elle dessine aussi sa vie en fresque sur les murs. comme si, vous savez, c'est une dernière façon d'exister, une façon de résister aussi à la mort, une façon d'être
oui,
vivante.
Et puis, et de se représenter elle
bien
aussi.
Bien sûr, alors c'est interdit.
Et de se représenter ouais. elle nue, alors qu'il faut qu'elle porte un voile et se cacher au contraire.
Voilà, ouais. c'est ça, c'est la liberté extrême. C'est, et puis je trouvais
c'est réussi,
intéressant par rapport au travail d'Eléa.
C'est formidable, c'est émouvant, c'est bien joué, c'est réussi.
Et les peintures, oui, c'est presque...
Elle réussit tout ce qu'elle touche, quoi. C'est énervant. Hein.
Non, mais il y a l'aquarelle animée. Oui, mais le dessin d'Eléa est vraiment, c'est extrêmement beau aussi. Merci. Hein,
des Hirondelles de Kaboul, encore au cinéma, et tant que c'est un succès, allez le voir, parce que c'est impressionnant sur un grand écran. Tanguy Pastureau. Tanguy, je suis sûr et je sais que vous mangez sainement.
Oui, parce que je pars du principe que la beauté intérieure se reflète à l'extérieur.
C'est beau,
je
ça.
Ne sais plus qui a dit ça, soit Olivier Adriaco en 97 dans Femme Actuelle, soit un ami à moi qui est boucher, soit la marque Björg. Par exemple, je mange tout bio. Ça me coûte un fric monstre. Hein. Quand je vais faire mes courses à la Vie Claire, je dois me prostituer 4 heures devant le magasin si je veux avoir de quoi acheter du pain d'épices. Si bien que j'ai développé une sorte de phobie des produits non bio. J'en ai peur. Cet été à Quiberon, il y avait une animation Nesquik. Quand Quickie, le lapin, s'est approché de moi, mais j'ai cru que j'allais crever. J'étais dans le même état de terreur qu'un vendeur de lampes à bronzer qui dans la rue croiserait Isabelle Huppert. Pour me ranimer, il a fallu me faire boire 14 Yogi Tea bio au gingembre. Ce sont des thés avec un message positif sur l'étiquette, oui. comme « Sois la source qui répand la lumière, tel un phare ». Enfin, ce genre de conneries, on a l'impression de lire les paroles d'une chanson de Zaz. Même Christophe André, le gourou de France Inter, qui est rémunéré en feuilles de lotus, pas la plante, le PQ, quand il lit une étiquette de Yogi Tea, a envie de tester la vidigipop. Bref, tout ça pour vous dire que je suis super sain. Si un jour je me fais harakiri afin de protester contre le fait qu'on a repris il y a 4 jours et que Riyad Satouf n'a toujours pas été invité, et ben mon colon sera tellement nickel qu'il sera servi en morceaux à la cantine de Radio France. Le seul problème du bio, je vais vous dire, c'est l'image qui véhicule. C'est cucu. Vous allez chez Bio C'est Bon, on a l'impression que c'est un monde idéal en miniature. On culpabilise même pas quand on prend des bonbons parce que sur le paquet, vous avez la photo de l'artisan qui a roulé un à un les petits réglisses entre ses doigts de pied entouré de ses chiens. Les guêpes surprises par l'éclat naturel des pommes rayons n'ose s'en approcher. Les mouches suivent, elles, cette cliente non épilée des aisselles, mais qui, dans un magasin bio, échappe au jugement d'autrui. Michel Houellebecq à Naturalia est quelqu'un que les gens définissent comme étant plutôt soigné. Le terme propret est employé à son encontre. Certains le lèchent, pensant qu'il s'agit d'une betterave bio pleine de terre à qui on aurait foutu une chemise. Tout le monde est dans l'acceptation de l'autre. Et du coup, c'est gnangnan. Alors que chez Leclerc, quand vous prenez du Garbit, ça, c'est destroy. De nos jours, ça équivaut à se faire 14 ligne de coke en 79 avec Grace Jones dans les Wawa du Palace. Mais ça, c'est fini, puisqu'hier, on apprenait que le bio aussi est rock'n'roll. Yeah! Ça va être le dawa dans les AMAP. En effet, Intermarché a rappelé des lots de farine de sarrasin bio contenant une plante hallucinogène. Elle devait pousser dans un champ. Le meunier s'est dit, tiens, ce truc, je connais pas, rien à foutre, je vais la mettre dans la farine. Il a aussi mis dedans un chat qui dormait au soleil et son fils Enzo, 7 ans, parce que le petit refusait de manger sa soupe. Bon, tout ça a moulu et maintenant, c'est dangereux. Parce qu'ingérer cette farine, dit Intermarché, et on peut les croire, il y a 2 semaines, ils avaient annoncé les 6 brochettes de porc à 5,90, ils l'ont fait. Intermarché dit que ça peut entraîner des hallucinations. On voit Benoît Hamon à l'Elysée, Bernard Montiel en train de lire. Mais aussi des paroles incohérentes. Si par exemple Marine Le Pen se met à crier « Allez, on ouvre les frontières, on laisse entrer tous les migrants, même les noirs », c'est qu'elle a mangé de la farine de sarrasin bio. Ou alors qu'une crêpière de gauche a voulu la piéger et a fabriqué sa crêpe au jambon avec ce sarrasin de l'enfer.
Il paraît que le magazine dit également que ça peut entraîner une désorientation spatio-temporelle.
Oui, Nagui, et c'est là qu'on réalise que Christine and the Queens, depuis 4 ans, on la regarde danser en se disant « Purée, elle a quand même un problème de motricité ». Eh bien, si ça se trouve, depuis le début de sa carrière, elle tourne au sarrasin bio. Et le pire, c'est que cette farine produite en France a été distribuée dans plein de pays, dont la Suisse, hein, justement, voilà. Non mais là-bas, des cas d'hallucination ont été détectés. Des gens jettent leur Rolex dans le lac Léman, leur Rolex dans le lac Léman en hurlant « J'aime autant une montre Swatch ». Enfin, certains hurlent « Vive la banque postale ». Mais aussi en Hollande. Ah bon, là, aussi à Amsterdam, un mec se fait des crêpes et ensuite sort se balader, on ne verra pas la différence avec les autres. Hein. C'est l'avantage de la Hollande. Même Amélie Nothomb avec un chapeau de 7 mètres de haut passe pour quelqu'un de banal. Il y a aussi l'Espagne, la Roumanie, bref, la moitié de l'Europe va être défoncée. Ah bah, il n'avait pas imaginé ça, Robert Schumann. Hein, mais au final, il aurait eu le même parcours que le groupe Jefferson Airplane. Alors attention, auditeur de France Inter, tu as peut-être ingéré de la farine bio-hallucinogène en voulant faire des cookies pour ton petit-fils. Comment t'en rendre compte? C'est simple. Si tu vis à Mulhouse et que tu as le projet d'emmener le petit à la mer cet après-midi, c'est que tu as mangé un cookie. Si ton petit-fils fait la taille de David Douillet, qu'il est jaune, a des antennes, un t-shirt à l'effigie de Jean Amadou et te répond en barissant puisque c'est devenu un éléphant d'Asie qu'il est très enthousiaste à l'idée d'aller à la mer, c'est que tu as mangé deux cookies ou plus. Donc, attention, la farine contaminée est de la marque Ma Vie Sans Gluten. Hein, dans 10 ans, chez Evelyne Thomas, des gens en pleurs viendront raconter comment c'est leur clair. Allergie au gluten les a fait sombrer dans la drogue. Sur l'un des lots de farine, il y a écrit SARB 170419 TNB. Hein. Donc, auditeur de France Inter, regarde bien l'emballage de ta farine bio s'il n'y a pas ce code. Et si à la place des numéros, tu vois des fourmis vertes et roses qui te font coucou tout en dansant de moonwalk, eh bien, c'est que c'est trop tard.
Merci, Tony.
La bande originale. Sur France Inter.
What's the move? C'est Young Thug et Ligue Uzi Vert sur France Inter.
What move? I'm tired of hurting you. I'm tired of spying on you. Tear the pain, mine too. I made it rain on you when it was hard to maintain too. I was playing games with you like you could never play games too.
Yeah.
Ooh. You just gotta tell me what you want. Love a ton, diamond, keep calm.
Okay.
All you do is point at what you want.
Point it up.
Crystal cut, punters in the chum.
Oh, yeah.
$35 for a dog. Nigga try to buy the cash cards. Purse Miller Brands with the walls. $35 for a dog.
You make it twerk for me. You get a purse for me. $80 for a burger. You get a purse for free. I make a word for me. Copy and burst for me. Turn to a B.I.O.B. I make a word for me. You won't beg, oh no, no. I make a drop it and bop it and break it on my nose. I make a shut up and suck it, she fucking at my shows.
I make a shut up, she fucking, she sucking at my shows.
Yeah.
Drip, drip. No shoes in my sneaker won't trip. My jeans they so tight they don't fit. Still walk around with a stick on my hip. VVS diamonds right behind my lip. Down wall with lefty 50 on my wrist. Diamonds so cold on my neck it got me sick. Rob Simmons mix it up with the Rick. Flexing on these haters who sent me my bad. Made it from the soil, made it from the wrecks. Richer than your first, richer than your last. LUV, you know I got the swag. Pop a rubber band, pop another Zan. I groove around, party back my hand. I'm seeing double looking through my lens. Tell me what you want, I just want your friend. You just gotta tell me what you want. Love a ton, diamond key, come.
Okay.
All you do is point at what you want.
Point it up.
Crystal cut, punters in the chum.
Oh, come on.
$35 for a dog. Nigga try to buy the cash cards. Purse Miller Brands with the walls. $35 for a dog.
You make it twerk for me. You get a purse for me. $80 for a burger. You get a purse for free. I make a word for me. Copy and burst for me. Turn to a B.I.O.B. I make a word for me.
Bang,
oh, no, no.
I make a
dropping and bopping and breaking on my nose.
I make a shut up and suck and she fucking at my shows.
I make a shut up, she fucking, she sucking at my
shows. Diamonds, they grip, diamond wrist. Keep licking it, fuck all the skits. Left wrist sitting on the brick. Bitch, have it lie like a pig. Fish work, K for the shit.
Part K,
grab an AK for the wrist. Gorilla rapping, babe on the bitch. Change your car, cave on a bitch.
Bitch.
We live in state, state on a
we
bitch.
State, state, yeah.
We never ever play with a bitch.
Never play, no.
Do everything the same on a bitch. We know them pick the brains of a bitch.
Big bang.
I throw the big B's on a bitch.
Big B's.
I got a few C's on a bitch.
That's like,
I'm in another lead on a bitch.
Crap.
My diamond back ski on a bitch.
What's the move?
I'm trying to earn you.
Oh, yeah.
I was trying to spine on you.
Yeah.
To the pain mines too.
Yeah.
Make it rain on you.
Rain.
It was hard to maintain too.
Ooh,
I was playing games with you, like you couldn't play games too.
Hey.
Okay, you just gotta tell me what you want.
Love
a ton, diamond, keep calm.
Okay.
All you do is point at what you want.
Point it out.
Crystal cut, punters in the chum.
Oh, yeah.
$35 for a dog. Nigga try to buy the cash cards. Purse Miller Brands with the walls. $35 for a dog.
birds for me. 80,000 off of a burger. You get a burst for free. I make a worship me. Call me and burst for me. Turn to a VIOB. I make a word for me. You won't back on, no, no. I make a drop it and pop it and break it on my nose. I make her shut up and suck and she fucking at my show.
I make her shut up and she fucking at my show.
C'était What's the Move de Young Thug et Lil Uzi Vert dans la bande originale sur Inter.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Léa Drucker, Michel Esco, Eric Pratt, André Marcon, Christophe Paou, Anne Roger et des projets. Alors, de quoi seront faits les mois qui viennent?
Alors, il y a un spectacle pour tout public et jeune public, enfin tout public à partir de 6 ans. Thélonius et Lola, c'est un chien sans collier, voilà, sans papier en gros, qui veut chanter et une petite fille qui va essayer de le sauver. C'est un texte de Serge Cribus. On monte ça à Amiens et un peu partout. Il y a déjà 80 dates de tournée, on va jouer à MC93, on va jouer, voilà.
Et le jeu, alors justement, l'actrice Zabou Breitman.
C'est moi.
Oui, mais quand? Mais quand? Oui. Où?
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Faudrait que je reprenne la Compagnie des Spectres. Ça, mais j'ai déjà joué, ça fait 10 ans que je le joue, mais j'aime bien le rejouer. J'ai les chocottes parce que c'est vraiment un gros spectacle avec beaucoup de mots et des mots difficiles.
Vous aimeriez être dirigé par quel réalisateur, par exemple?
Oh, bah plein, il y en a plein. En réal, il y a, je sais pas, Audiard, Clapiche, qu'est-ce qu'il y a, plein, mais je sais même pas. En fait, c'est le projet qui compte aussi, le projet évidemment, et le réalisateur ou la réalisatrice.
Ça vous est déjà arrivé d'écrire une lettre à un réalisateur ou de lui dire de visu, j'aimerais travailler avec vous?
Ouais, une fois dans ma vie, c'était Alain Resnais. C'est tout. Une fois dans ma vie, j'ai dit non. J'ai dit voilà. J'ai même pas dit j'aimerais travailler avec vous. J'ai dit je vous aime tellement. Il m'a pas fait travailler.
Et avez-vous reçu des lettres aussi, des demandes comme d'actrices, d'acteurs qui vous disent au théâtre par exemple, j'adorerais travailler avec vous.
C'est assez
émouvant.
C'est très touchant, ouais, extrêmement. Et de gens merveilleux qui me disent bon ben moi j'adorerais travailler avec toi. Donc c'est aussi pour ça que j'aime vraiment beaucoup les acteurs, quoi. Je suis très très bouleversée. Je trouve qu'il faut beaucoup de courage, énormément de courage, pour se livrer comme ça, pour être aussi précis et aussi d'être comme ça, un peu le pantalon en bas des pieds sur scène, parce que c'est ça, on n'est pas à poil, hein, c'est bien pire, on a la culotte en bas des pieds. Et c'est un truc, oh, la vache,
quoi.
Et pour marcher, c'est compliqué. Et tous les soirs, je me dis, ils sont courageux, ils sont merveilleux.
C'est peut-être ce manque de courage qui a fait que je n'ai jamais midi à Daniel Morin, j'adorerais travailler avec toi. Alors, voici Daniel.
Il y a beaucoup d'amour.
Tout ça,
il y a de l'amour derrière tout ça. Bah oui, pantalon sur les chevilles, vous pensez bien. Allez, on n'a peur de rien, les amis. S'il faut dénoncer, on y va. Après tout, on est un pays de tradition et la collaboration fait partie de notre patrimoine culturel. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer un nouveau type de chronique. Ça s'appelle Coucou les fumiers. Ah oui, quand je vous vois, Nagui, tout de suite, j'ai des idées.
Pensez à ça.
Coucou les fumiers, un petit clin d'œil amical à toutes les raclures qui nous entourent, tous les enfoirés qui respirent le même air que nous et qu'on aimerait voir morts. Bon, mort, j'exagère, mais au moins gravement accidenté. Alors cette semaine, on a deux lauréats pour Coucou les fumiers. Et le premier est... celui qui a volé deux petites voiturettes électriques dans une clinique au Mans. Des voiturettes destinées aux enfants malades de la clinique pour les accompagner de façon plus ludique au bloc opératoire. Et bien ces deux voiturettes ont été volées. Alors je vous propose qu'autour de la table, nous nous tenions la main pour inviter les esprits de la vengeance à frapper l'ordure qui a fait ça. Esprit vengeur, reçois ma supplique. Place une savonnette sous les pieds du voleur de voiturette, qu'il glisse dessus, tombe dans son escalier, que sa mâchoire frappe les marches, qu'il se casse les dents, puis qu'il roule jusqu'en bas, bouscule un meuble sur lequel une grosse bouteille lui tombe sur la tête, lui fend le crâne, qu'en se relevant, le dieux individu se coupe les pieds, se lui revient cassé, qu'il rechute en arrière, se casse un bras ou deux. Amen.
Ça marche. Son mieux, en tout cas.
Ouais, hein. Deuxième lauréat de Coucou les fumiers. Oli Ilunga, ancien ministre de la Santé de la République démocratique du Congo. Attention, cramponnez-vous, il aurait détourné 4 millions de dollars destinés à la lutte contre le virus Ebola. Oui, champion ! Là, niveau salopard, on parle gros niveau. Là, c'est clair, à côté de lui, le voleur de voiturettes électriques, c'est l'abbé Pierre. Hein. Bravo, monsieur Ilunga ! Vous êtes sans conteste le fumier de la semaine ! Allez, on se remobilise. On invoque le dieu de la vengeance pour que la fatalité punisse monsieur Ilunga. On va changer d'approche. Dieu de la vengeance, de la nature et des saucisses bon marché qu'on fait griller au bord de l'eau. Fait que pendant sa promenade dans le jardin, les chevilles et les poignets de Monsieur Ilunga soient saisis par des racines folles qui le maintiendront au sol pendant que les scarabées et autres coléoptères affolés chercheront refuge, rentrant en lui par les oreilles et par le nez. Pendant ce temps-là, Dieu de la vengeance et de la nature fait tomber la foudre sur Monsieur Ilunga, que ses vêtements prennent feu et une fois nu et offert une plante aussi carnivore que coquine qu'elle lui mange le zizi sexuel. Amen. Ah ben voilà. J'espère que toutes ces prières seront entendues et que nos deux tristes individus souffriront le martyr. Allez, à bientôt pour une nouvelle séance de Coucou les fumiers. Salut.
Merci.
La bande originale avec Nagui.
Leïla, qu'as-tu retenu de la visite de Zabou Breitman? Pas uniquement de la dame de chez Maxime, mais parce qu'il y a aussi les hirondelles de Kaboul. Retenu de cette émission?
Que quand on a l'idée comme ça, qu'on a une forme de... Moi, je suis vraiment toujours très enthousiaste de voir tout ce que vous faites, Zabou, quel que soit le domaine. Non, mais c'est vrai, même à la présentation d'émissions, à votre façon de penser les choses, de mettre en scène les gens, et je sais que vous les aimez vraiment.
Rien
les,
n'est anodin.
Les comédiens, parce que vous les mettez vraiment en valeur et que vous êtes hyper généreuse et que
malgré cette réputation de tortionnaire
et que d'imiter ma voix
et que metteur en scène n'est pas metteur en scène qui veut et que vous êtes une grande metteuse en scène.
Merci
Tanguy, Pastureau, qu'avez-vous retenu?
Eh bien, j'ai retenu la déception puisque mon idole Jean-Marie Cavada m'a déçu aujourd'hui. Je l'ai vu 12 fois en live avec son groupe les Modem Fucking Boys et je vais changer d'idole donc toi Taylor Swift.
Jérémy Crédville.
Moi j'ai retenu qu'on avait un point commun, Zabou et moi, c'est que on nous appelle jamais pour tourner des films.
Moi, ce que j'entends, c'est que j'ai très, très, très envie d'aller voir La Dame de chez Maxime.
Ah, mais tu vas adorer. Daniel Morin, un pronostic pour la carrière de Zabou.
Ça fout les jetons. Non, ben alors, Zabou Breitman a tous les talents. Comme quoi, il faut parier sur les femmes poilues.
Zabou, qu'aimeriez-vous entendre de la part de spectateurs qui sortent du théâtre de la Porte Saint-Martin de La Dame de chez Maxime?
Je sais pas. Ça, je sais pas. Ça me terrorise, en fait. À partir du moment où j'ai fait le spectacle, je suis juste terrorisée, en fait. J'ai les oreilles qui font zzz, j'entends plus rien, j'ai l'impression que je vais défaillir. Je pense beaucoup d'abord au théâtre, un théâtre qui vibre, qui rit et qui est plein, c'est génial. Et je pense évidemment au théâtre, je pense au directeur du théâtre et je pense beaucoup aux acteurs, parce qu'une comédie sans personne qui rit et avec beaucoup de, ou alors avec beaucoup de gens qui rient pas, c'est compliqué quoi. Donc je leur souhaite d'être heureux en fait.
Ça marche, c'est exactement ce qui nous est arrivé. Des excuses à présenter
également. Bien sûr. Désolé déjà pour Jean-Marie Cavada dont le regard visionnaire, le sens de l'analyse et plus globalement l'élégance ont été pointés du doigt par Madame Zabou Breitman et Monsieur Nagui Femme. Eh oh, on est chez nous. Alors je suis désolé pour les programmateurs de France Inter, désolé pour les auditeurs fans de Vincent Delerme et autres chanteurs à voix, bref, désolé pour tous ceux qui ont été choqués par notre défense de Céline Dion. Alors, comment vous dire? Oh puis non, je dis rien, merde. Désolé pour les comédiennes, les comédiens et plus généralement les martyrs qui prochainement joueront sous les ordres du maréchal Zabou. C'est vrai que ça fait flipper, mais voilà.
Ça c'est pas vrai.
Je tenais à vous rassurer. Méchant. Même en tant qu'invité, elle est méchante. Oh.
Merci Zabou et encore bravo.
Merci,
bravo.
De votre accueil.
La bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même adresse sur Inter avec Mazarine Pinjot.